Hey, salut, j'espère que tu vas bien. C'est parti, c'est l'épisode 78 et c'est un solo time. Alors je te laisse t'installer confortablement. Aujourd'hui on va parler de pas mal de sujets. J'ai pris plein de notes, ça fait un moment que je dois enregistrer cet épisode. Mais comme tu le sais déjà, mon livre « Incarner une spiritualité badass » est sorti le mois dernier. J'ai réalisé beaucoup d'interviews dans lesquelles j'ai parlé de moi, du livre, du projet, du podcast. Et j'essayais à chaque fois d'apporter des choses nouvelles pour pas me répéter. Donc j'ai beaucoup blablaté et j'avais plus de juice, plus de jus en moi pour enregistrer Solo Time. Là, je suis posée, je suis tranquille. Et je vais le faire. Alors, de quoi j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui? J'ai pris quelques notes. Alors, attends, je les récupère. Hop, hop, hop. Solo time 78. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi des cycles de 7 ans. D'après Rudolf Steiner, on passe par des cycles de 7 ans. Et j'avais déjà capté cette information il y a quelques années, mais là, je me suis reposée dessus. Et j'ai trop envie de partager ça avec toi. Je suis sûre que ça va te parler. J'ai envie qu'on parle de mon nouveau challenge personnel, qui est celui de faire les choses sans attendre de résultats. Je t'en parlerai notamment avec la séance de dédicace que j'ai organisée à Paris. J'étais un petit peu déçue qu'il n'y ait pas plus de monde. On en reparlera un petit peu plus tard. Ah oui, j'ai noté aussi les archives akashiques. Je suis en train de noter des informations parce que j'ai envie d'écrire un e-book. E-book avec le mot hibou, parce que le hibou, c'est le seul animal qui est autorisé à aller explorer les archives akashiques. Donc voilà, là en ce moment, je suis en train de vous écrire un e-book sur les archives akashiques dans lequel je vous mettrai pas mal d'informations. Je vous expliquerai comment je m'y prends pour m'y connecter, tout ce que ça m'a apporté dans ma vie. Et je vous mettrai aussi à l'intérieur de cet e-book tout un protocole en fait pour vous connecter vous aussi à vos propres archives akashiques pour être totalement autonome, vous connecter à votre propre intuition, vous questionner, aller comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de cette bibliothèque éthérique, akashique, immuable dans laquelle se trouvent toutes les mémoires de ton âme, de l'âme du monde, toutes les connaissances, enfin voilà, c'est un outil de développement personnel extraordinaire. Et je pense qu'il est grandement temps, toi aussi, que tu puisses accéder en toute autonomie à ce serveur, ce cloud de connaissances. J'ai envie de vous parler aussi du Oraglo Project qui redémarre ce 15 mars. Et j'ai boosté cette proposition à bloc, parce qu'il est grandement temps que toi aussi tu prennes ta place et que tu rayonnes depuis un espace de créativité et de paix intérieure et de joie aussi. Hein. La joie, c'est toujours hyper important. De mon point de vue, ce parcours initiatique là sur lequel on est tous lancés, il doit se faire dans la joie. Ça ne veut pas dire que parfois on ne passe pas par des moments hyper difficiles, challengeants, dans lesquels on est éprouvé, mais on ne perd pas de vue qu'on doit très 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 rapidement se reconnecter à notre pleine conscience. Parce que quand on est en pleine conscience, on est dans la joie, on est dans la paix intérieure, ok ? Quand on perd de vue ce lien-là, c'est qu'on est perdu dans les tourments de notre mental, de notre mental égo, et on rumine, et on se raconte des histoires, et on a envie de passer par cette phase où on a envie d'être victime de notre propre histoire. Mais tout ça, c'est que des illusions, en réalité. Le plus important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc voilà, je vous parlerai du Oraglo Project, nouvelle formule, avec tous les outils géniaux que j'ai développés pour pouvoir t'accompagner au mieux. Le Oraglo Project, c'est un accompagnement qui se fait sur un mois. Le Oraglo Project, je l'ai designé pour les personnes qui ont déjà pas mal déblayé le terrain, qui ont défriché une bonne partie de leur subconscient, qui ont capté où étaient leurs croyances limitantes, qui ont déjà avancer sur ce chemin. Je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes que j'ai accompagnées ces 4 dernières années qui ont grandi, qui ont évolué et qui aujourd'hui ont besoin qui ont besoin d'une approche beaucoup plus soutenue et soutenante. Je suis hyper, hyper contente parce que au fur et à mesure, je suis vraiment en train d'accompagner des nouvelles entrepreneurs qui ont besoin de prendre leur place et de diffuser leur sagesse, leur vibration sur les réseaux sociaux. Et j'adore partager mes connaissances sur la prise de parole en public sur les réseaux sociaux parce que moi, j'ai été journaliste pendant pendant plus de 12 ans et du coup, j'ai réalisé beaucoup de média training avant de commencer à m'exprimer derrière un micro, avant de d'apparaître à la télé notamment ou sur Internet plus tard. Et donc, je suis hyper contente au travers du Oraglow Project de pouvoir vous accompagner aussi sur ce biais-là. Ah oui, puis à la fin de cet épisode, je partagerai avec toi ma prière en trois temps, mon triptyque de connexion que j'ai développé il y a quelques semaines maintenant et que j'utilise tous les soirs avant de m'endormir, que je trouve hyper, hyper efficace et optimisée. Donc ça sera à la fin de l'épisode. Spiritualista. Allez go, on commence avec le premier sujet, c'est mon livre « Incarner une spiritualité badass » qui est sorti le 8 février dernier et je suis super contente déjà parce qu'au niveau des ventes, vous avez répondu à l'appel et c'est canon ce qui se passe. Si t'as pas encore ton exemplaire d'Incarner une spiritualité badass, tu peux le trouver dans toutes les librairies de France. Il me semble même dans les dom-tom, on m'a dit que mon livre était disponible sur l'île de la Réunion, donc je suis hyper contente. Sinon, vous pouvez le commander aussi par correspondance sur le site de la FNAC, Amazon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et Cultura. Ah oui, laissez-moi un commentaire, je vous en supplie, laissez-moi un commentaire si vous avez acheté votre livre sur Amazon ou sur la FNAC. Laissez-moi un commentaire et 5 étoiles, c'est hyper, hyper important pour la suite des événements. C'est hyper important pour réaliser ma manifestation qui est la suivante. Faire de Incarner une spiritualité badass un best-seller, s'il vous plaît. C'est dans mon vision board de 2023. Allez, aidez-moi à réaliser cette manifestation dans la matière. Donc oui, je vous disais tout à l'heure dans l'intro, on avait réalisé le jour de la sortie avec ma maison d'édition, les éditions Erol, une dédicace. Il y avait 1h30 qui était prévue pour la dédicace, c'était de 18h30 à 20h. On a dû nous jeter dehors après à 20h parce que j'étais encore là en train de discuter avec vous, de faire des photos, de vous faire des hugs et tout, c'était trop trop cool. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles j'interagis sur les réseaux depuis de nombreux mois, voire années, et là vous voir en vrai et tout, c'était vraiment super... C'était vraiment trop cool, quoi. J'étais vraiment contente de vous rencontrer. En revanche, moi, dans ma petite tête de linotte, j'avais visualisé ça avec beaucoup plus de personnes, en fait. On était bien assez hein, pour 7h30 de dédicace. Ça m'a permis de prendre le temps et tout avec vous, mais vraiment, genre, j'aurais pensé qu'il y ait plus de personnes. En fait, quand on voit le nombre d'abonnés qu'on a sur les réseaux sociaux, je crois 36 000 sur Instagram, pratiquement 80 000 sur TikTok, moi, je me dis toujours que, voilà, c'est des vraies personnes derrière les comptes et que ça peut être cool de se rencontrer, surtout si vous m'écoutez sur le podcast depuis 4 ans. Je sais que si je suis quelqu'un depuis 4 ans sur un sujet aussi intime et personnel que le développement personnel et la spiritualité, si elle débarque dans ma ville et qu'elle sort un livre, j'aurais envie d'aller la rencontrer juste pour lui dire merci pour ce que tu fais en fait, c'est grave cool. C'est pour ça que j'ai été assez déçue, en plus j'étais en PMS, c'était quelques jours avant mes règles, je crois 2 jours avant mes règles, c'est vraiment le seuil critique émotionnel. Ouais, j'étais un peu déçue. Voilà. Je l'ai d'ailleurs dit hein, dans un live où quelqu'un m'a demandé « Alors, tu dois être super contente que ton livre est sorti. » Et j'étais en mode mixed feeling, en fait. Mais bon, je pense que ça fait partie du truc. Et c'est justement pour ça qu'en ce moment, je travaille sur le fait de faire les choses sans attente. Parce que c'est un signe d'attachement, en fait. Je suis attachée au résultat. Alors que logiquement, dans mon processus créatif, j'étais tellement heureuse... en l'écrivant, en le faisant, en le fignolant. Et là, en le sortant, je me suis rendu compte qu'en le sortant, je voulais qu'il soit lu par un maximum de gens. Et c'est vrai, j'ai envie que ce livre il soit lu par un maximum de gens parce qu'il y a énormément de clés d'auto-soin, de compréhension de soi, d'auto-réalisation qui sont à l'intérieur de ce livre. J'ai vraiment mis le best-of de ce que je pouvais partager. Et je sais que ça va faire gagner du temps à beaucoup de personnes, du temps, de l'argent à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc oui, je prie depuis de nombreux mois. Hein. Quand j'étais à Bali, déjà, je priais pour que la bulle énergétique de ce livre soit rayonnante, magnétique, et se diffuse au maximum de ses capacités. Au niveau des ventes, ça se passe super bien, donc je suis super contente. Mais il y avait une partie de moi qui avait aussi envie de vous rencontrer, en fait. De vous voir, de vous serrer dans mes bras. Et cette partie-là de moi, quand j'ai fait la séance de dédicace, elle s'est pas sentie reconnue. Mais bon, je pense que c'est important aussi de vous le dire parce que voilà, on traverse des moments, il y a des déceptions, il y a des trucs comme ça, et que ça fait partie du parcours. Et je trouvais que c'était aussi important de vous le dire. Et de pas faire semblant. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait une foule, une foule qui m'acclame, mais j'ai eu une foulette, une petite foulette qui m'a acclamée, et c'était quand même un super, super moment, et j'étais contente de vous rencontrer. Pour ceux et celles qui étaient présents, merci. Merci d'avoir répondu présent. Ah oui, on m'a sorti un truc aussi, c'était drôle parce que voilà, autour de moi j'ai des amies bienveillantes qui ont aussi beaucoup beaucoup d'abonnés sur les réseaux, et j'aurais dit ouais, j'étais hyper déçue, il y a pas eu assez de personnes qui sont venues et tout. Et on m'a dit, mais Amel, déjà, c'était à Paris, 18h30, il fait nuit. En plus, ce soir-là, il pleuvait, il faisait froid. Les gens ne sortent pas de chez eux. Donc moi, j'aurais dit, mais en fait, les gens, ils sont quoi? Ils sont en sucre. Ils ont peur de se dissoudre. Et ah oui, il y a un autre truc aussi qui m'avait un peu vénère, c'est que le lendemain, j'ai eu des messages, j'en ai eu certains, du « Ah, Amel, est-ce que tu referas une séance de dédicace ?» Ben non, en fait. Bah non, 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 il y en a eu une, et c'était déjà super, il fallait venir en fait. Moi j'étais là, voilà, moi j'étais là, moi je vis plus à Paris. Moi j'étais là, j'étais à Paris, j'avais un outfit, j'étais pimpante, et j'étais là avec mes feutres violets pour dédicacer vos livres. Moi j'étais là. Et toi t'étais où ? Donc là, pour le moment, je suis en train de discuter pour faire une dédicace à Nice, une autre à Biarritz, un petit peu plus tard là dans l'année. Donc voilà, il y a des librairies qui sont intéressées, qui ont envie d'organiser des lectures. Donc moi, j'ai envie de vivre cette expérience à fond. Donc moi, je serai là. Et toi, tu seras où ? Ça devient un gimmick. Tu me vois pas, mais je fais des pauses entre chaque séquence pour déglutir. Parce qu'en fait, là, je suis en train de jeûner et je ne peux pas boire. Et du coup, j'avale ma salive pour humidifier un petit peu ma langue, ma bouche, ma trachée et pouvoir enregistrer cet épisode. Alors oui, il y avait autre chose que j'avais envie de parler avec toi, c'est les fameux cycles des 7 ans. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Les cycles de 7 ans, moi j'en avais entendu parler au départ quand je m'étais initiée au Reiki il y a quelques années. Mais là, c'est Rudolf Steiner qui parle des cycles des 7 ans dans la vie. Il parle de périodes de développement de notre corps qui génèrent du coup des changements, qui sont ensuite répercutés au cycle suivant. Donc, c'est des changements qui ont lieu dans notre corps, dans notre esprit, dans notre histoire personnelle. En fait, c'est des cycles. Moi, du coup, j'ai vérifié. J'ai vérifié dans mon histoire, voilà, sur ma timeline de vie. 07, 7, 14, 14, 21, 21, 28. J'ai checké, en fait. Et dans mon histoire personnelle, clairement, on voit les gros changements. On voit que d'un cycle à l'autre, clac, soit il y a un gros déménagement, je change de ville, je change de travail, je rencontre un nouvel amoureux, ou alors c'est une rupture, une remise en question, un cycle de dépression. En fait, vraiment, vous allez voir, je vais vous les passer un petit peu en revue avec les petites notes que j'ai prises, mais vous allez capter que ces cycles de 7 ans sont réels, en fait, dans votre vie. N'hésitez pas à me dire... en commentaire, en DM, si ça vous a évoqué des choses et si ça vous a parlé, ces fameux cycles. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque cycle qui passe, on apprend à grandir, on a un nouveau regard sur le monde, on a un rapport à notre corps qui est différent, un rapport à notre spiritualité aussi qui est différente, si elle s'éveille, tu vois, parce que sinon, on va dire qu'on a peut-être une vision du monde et des gens et de soi-même, et c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on a tendance à dire qu'il y a une phase croissante qui va de nos 0 à nos 35 ans, et la 36e année, c'est une phase dite décroissante où l'énergie vitale est différente. Ça ne veut pas dire qu'on décline. Moi, en ce moment, je suis en train d'installer de nouvelles croyances qui sont les suivantes. Année après année, je suis de plus en plus souple, de plus en plus jeune, de plus en plus belle, de plus en plus fraîche et de plus en plus intelligente, spirituelle. Enfin bref, c'est level up, level up, level up. Ok ? Donc ça, c'est la croyance que je suis en train d'installer. Ça a commencé dès le début d'année avec cette formation pour potentiellement devenir prof de yoga que je suis. Tous les jours, je fais du yoga, matin, soir. Donc, je gagne concrètement en souplesse. Je vais bientôt atteindre le point où à 41 ans, j'aurais été le plus souple de toute ma vie. C'est un délire ou pas ? C'est clairement un délire. Donc, je suis en train de mettre en place plein de choses sur ma vitalité, mon hygiène de vie. Ma sœur est devenue naturopathe et voilà, elle me suit déjà depuis un mois. On a installé beaucoup de choses, tout un protocole. Le mois dernier, j'ai fait un jeûne, une monodiète de fruits et légumes. J'ai mangé que des pommes rouges et des carottes pendant... C'était 4 jours ou 5 jours ? 5 jours, je crois. Ensuite, j'ai installé ma nouvelle routine avec mes nouveaux compléments alimentaires. Enfin, voilà. Donc, sur la phase croissante, décroissante, là, des cycles, je vous le donne parce que c'est comme ça qu'ils décrivent ce système-là. Mais toi-même, tu as la possibilité d'installer tes propres croyances, des croyances soutenantes, OK ? Donc, on revient sur ces cycles. Donc, on va dire que de 0 à 7 ans, tu développes ton chakra racine, OK ? C'est ton premier chakra de 0 à tes 7 ans qui est lié vraiment au monde de la matière. C'est le moment où tu es vraiment dans les jupons de ta maman, tu es connecté à ta mère. C'est ta mère qui va te transmettre tes fondamentaux, hein, ta vision du monde, développer ton lien à tes premières émotions. Tu vas aussi développer ton corps physique, hein, pendant ces années-là. Tu es vraiment lié à ton monde intérieur, hein. Tu es encore en fusion, en lien avec ta mère. Donc ton environnement, il est encore flou à ce moment-là. Tu commences à construire tes sens aussi, tes sens qui permettent progressivement de connecter ton environnement à ton intériorité. Et donc, ce cycle, en général, il se termine par une petite blessure, en fait, parce qu'il va falloir sortir des jupons de maman, il va falloir sortir de ce lien-là avec la mère pour découvrir le monde extérieur. Ça passe par la nounou, l'école, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, de tes 7 à 13 ans, tu bascules du monde de la mère au monde qu'on dit du père, vers l'extériorité. Tu passes du yin, de l'introspection, des émotions, la sensibilité de la mère, au yang, à l'exploration de l'extériorité, de la mise en action. Donc là, ça peut être le moment où tu peux être face à tes premières peurs, à tes premières appréhensions. Tu découvres le monde extérieur. Tu développes aussi ton corps éthérique, ton deuxième chakra, le chakra sacré, qui est celui de la famille, qui représente la famille. Entre tes 7 et tes 14 ans, tu vas développer ta personnalité. Voilà, il y a les grands traits de ta personnalité qui vont commencer à émerger. Tu vas commencer à imposer tes choix, mais petit à petit, tu construis le « je ». On dit aussi qu'entre tes 7 et 14 ans, ton père devient ton nouveau référent, c'est ton nouveau modèle en fait. Le père sera admiré là où la mère, elle, sera aimée. Et logiquement, ce qui est important aussi dans ces deux grands axes, c'est que la mère, elle, entre tes 0 et tes 7 ans, elle va imposer les choses parce que tu n'as pas encore la capacité de discerner le bien du mal. Voilà, s'il y a une bougie et que tu commences à approcher ton doigt vers le feu de la bougie, la mère va retirer la bougie. Elle va dire « Non, tu ne fais pas ça ». Voilà, la mère impose. Parce que tu n'as pas encore les capacités. Là où, entre tes 7 et tes 14 ans, dans l'énergie du père, tu commences à développer ton discernement et ta capacité à raisonner. Si la même expérience avec la bougie, si ton père te regarde et quand tes 7 et 14 ans t'approchent ton doigt, ton père va te dire « je te laisse faire et tu verras bien ». Il te laisse ton autonomie et ta responsabilité. Et ça, c'est des cycles qui sont importants. Et bien souvent, cette responsabilité du père, elle n'est pas donnée à l'enfant parce qu'on remplace la gouvernance du père par l'éducation nationale qui ensuite sera remplacée par papa État. Et donc, on laisse pas au citoyen sa capacité à choisir par lui-même, à se dire « Ok, si je prends ce chemin-là, potentiellement, je vais faire une erreur, mais c'est pas grave, j'en prends la responsabilité. Je peux faire de la merde, mais j'en prends ma responsabilité. » Non, papa État, comme l'était papa éducation nationale, va t'empêcher de faire des erreurs, va te faire respecter des règles et des lois. Et ça, c'est très, très particulier, hein, parce que quand on parle de quête initiatique, de souveraineté, d'être sa propre autorité, on se rend compte très rapidement qu'à partir de nos 7 ans, cette capacité-là nous a été retirée. On poursuit cette avancée, j'espère que ça t'intéresse, hein. Moi, j'ai grave kiffé, hein, quand j'ai découvert tout ça. Entre tes 14 et tes 21 ans, tu développes ton plexus solaire, ton troisième chakra qui représente, lui, l'ego. Il représente l'ego. Je te rappelle, le premier chakra, c'était le monde de la matière, la sécurisation, la maison, le cocon, la nourriture. Ça, c'est le chakra racine, le premier. Le chakra sacré entre tes 7 et tes 14 ans, c'est la famille. Tu sors de toi-même et tu développes, tu te connectes à l'extériorisation et tu crées un pont entre toi et les autres. Ensuite, entre tes 14 et tes 21 ans, c'est le plexus solaire. Et là, c'est la véritable construction de l'ego. C'est le développement de ton corps émotionnel et mental. C'est là où tu commences à développer des amis, un amoureux, un milieu, des passions. C'est à la fois le moment entre tes 14 et tes 21 ans où tu es à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, de l'univers. Mais c'est aussi l'âge, malheureusement, où on se sent le plus incompris et incomprise. Et donc ça développe la graine de la révolte contre la société, contre l'autorité, contre ses parents. On commence à se construire contre. Et c'est là qu'apparaît l'ego. On a envie de changer le monde, de détruire les structures qui sont déjà là, le cadre qu'on trouve trop petit, trop étriqué, on se sent trop à l'étroit. Donc en général, entre les 14 et les 21 ans, on est en rébellion. On dénigre un peu ce système-là autour de nous, les valeurs trop anciennes. On essaie de se construire un peu à l'écart, à côté. Et en général, cette période-là, elle s'achève par la sortie, l'éclosion du cocon familial. On s'extrait. Moi, par exemple, sur mon parcours personnel, c'est la période où j'ai quitté le cocon familial pour aller m'installer à Lyon, avoir mon premier appart, mon premier studio et faire mes études, premier job d'étudiante. Enfin voilà, il y a un côté d'émancipation où on sort du socle. Où pour moi, c'était le fait de faire ce que personne dans ma famille n'avait fait. Voilà, faire des études comme ça dans une autre ville, s'installer solo, boum, boum, boum. C'était nouveau et ça me permet déjà de me construire, moi, dans mon individualité, quelque part. On poursuit cette avancée. Ensuite, on a le cycle de 7 ans entre les 21 et les 28 ans, où là, on monte d'un cran, c'est la construction du chakra du cœur. Et là, c'est l'altruisme. On développe son corps causal. Le choix vraiment d'un environnement, d'un milieu. Moi, c'est le moment où je commençais à comprendre que j'étais à l'université. Donc voilà, on choisit les personnalités qui vont devenir nos amis d'université. On commence à faire nos premiers stages, à avancer, à affiner en fait. On affine, on était dans un socle global, on a déjà choisi, moi c'était information et communication des médias. Là, je commençais à vraiment, vraiment affiner mon rêve qui était celui que j'ai depuis mes 12 ans, de travailler à la radio. Ok, est-ce que je peux commencer à travailler en même temps que la radio, à faire des stages, des trucs comme ça. Donc voilà, on affine son individualité, on va plus en profondeur et on va dans le terrain, quoi. On tente aussi de sortir de la matrice familiale, des pressions extérieures et de son environnement social. Moi, je commençais à m'extraire un petit peu, à côtoyer d'autres personnes, à être dans d'autres milieux sociaux, à sortir avec des mecs qui étaient tout sauf ce que j'étais. C'est-à-dire une maghrébine, musulmane, non, voilà, boum, on sort complètement du socle, d'autres nationalités, d'autres gens, d'autres personnes. J'étais dans une autre ville, donc je sortais beaucoup, je rencontrais d'autres personnes. Voilà, on commence à vraiment, vraiment s'intégrer dans son individuation, à suivre sa propre trame, en fait. Entre tes 21 et tes 28 ans, tu commençais à trouver, quoi. C'est aussi la période où on se stabilise après la période de révolte, quand on arrive après vers les 28 ans. Moi, typiquement, ça a été ces années-là, la fin 25, 26, 27, 28, début de ma phase complotiste, remise en question de l'ordre établi, comprendre qu'il n'y avait pas de liberté de la presse, que c'était qu'une illusion. Voilà, ça, je commençais à le capter parce que j'étais à la fois journaliste. J'ai commencé à bosser en rédaction à quel âge ? À 25-26 ans, ouais, par là. Commencer à développer du contenu pour certaines plateformes. Et donc oui, je commençais à capter deux, trois trucs qui étaient un peu chelous, quoi. Qui étaient dissonants. Et c'est aussi le moment où tu captes que tu vas pas pouvoir tout bouleverser direct, arriver comme ça et tout casser, non. Donc c'est le moment où tu mets un petit peu d'eau dans ton vin, où tu dis ok, je vais rentrer dans le système, mais je vais faire ce que j'ai envie de faire, de la façon dont j'ai envie de le faire. Je vais essayer d'être dans le système, mais en même temps d'être moi-même. Voilà, je vais essayer de pas trop me perdre dans ce cadre. Donc ça, c'est la fin de la vingtaine, début de la trentaine. C'est en général la phase par laquelle on passe. Et on décide aussi de construire son propre cocon, ses propres relations amoureuses. On s'installe dans son premier appartement vraiment d'adulte. Enfin voilà, on pose sa tonalité. Ensuite, on est sur 28-35 ans. Ouais, c'est ça, 5-7. Ouais, ça fait un cycle de 7 ans. De 28 à 35 ans, là, on développe son chakra de la gorge. Et là, on commence à se connecter au spirituel. On développe son corps bouddhique. On commence à accueillir l'esprit dans son temple intérieur, dans son corps. Et là, on va commencer à libérer son capital créateur, sa véritable personnalité. On assume ses couleurs, son originalité. On commence à vraiment prendre sa place. Entre les 28, 34 ans, voilà, on met en place des choses. Moi, par exemple, c'est le moment où j'ai compris qu'on n'allait pas venir me chercher pour faire de la radio, qu'il fallait que je mette les mains dans le cambouis, que je crée mes propres contenus, mes propres rubriques, et que j'aille démarcher les gens. Ça a été aussi la période où j'étais indépendante, journaliste indépendante, où j'allais démarcher, je proposais mes sujets. Enfin voilà, on commence à capter que il va falloir assumer ses choix, sa vibe, et que la liberté d'être soi, ça induit aussi une autre organisation au travail, certains sacrifices et une autre façon de procéder. Donc d'autres codes, quoi. Entre 28 et 35 ans, on comprend aussi qu'on a la possibilité de se réinventer, qu'on peut renaître à soi-même, qu'on peut faire de nouvelles choses, qu'on peut se réorienter, reprendre des études, que le champ des possibles est encore ouvert. Il est en fait ouvert toute notre vie en réalité, mais vu qu'on vit avec cette croyance limitante du « tu fais un choix d'études, d'université, d'école, tu da-da-da-da, premier job, blabla », on pense qu'on est piégé là-dedans, mais pas du tout. On peut se diversifier, ouvrir le champ des possibles et développer nos compétences à tout instant. Donc ça, c'est aussi à ce moment-là, au travers de notre expression, le chakra de la gorge, c'est vraiment l'expression de soi-même. Donc on s'autorise à le faire depuis le cœur et plus depuis le mental ego. Donc ça, c'est super cool, je trouve. Je sais pas pour toi, mais pour moi, 28, 35 ans, c'était une super, super période. Je me suis éclatée. Il y a eu du down. Mais il y a eu aussi du up, 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 voilà. Et parfois, le down, c'est juste prendre de l'élan, mais pas prendre de l'élan sur le plan horizontal. C'est prendre de l'élan aussi sur le plan vertical. Donc ça, c'est important de le voir aussi, hein, que quand on redescend à l'intérieur de soi-même, pouf, ensuite, on remonte de plus belle. On tire sur les ressorts, on tire sur l'élastique pour vraiment avoir un bel effet rebond. Donc ça, c'est chouette. Et moi, je sais qu'entre mes 28 et 34 ans, c'est exactement ce que j'ai vécu. Je suis allée très, 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 très down. Mais quand je me suis révélée, c'était vraiment up. C'est aussi le moment où j'ai commencé à travailler pour Radio France, à Move, et avec une équipe formidable, et où je me suis éclatée, où mes rubriques ont été acceptées, où j'étais bien payée pour ce que je faisais. Enfin, c'était top. Cette période-là, c'est surtout 27, 32 ans. C'est vraiment le moment où on prend conscience qu'on est responsable de nos pensées, de nos actions, ça c'est vraiment une vraie prise en charge de soi, de sa vie. C'est hyper important. On a l'impression qu'il y a une porte du passé qui se referme, et que là on a tout à réécrire, tout à déconstruire, et qu'il y a une belle page blanche qui s'offre à nous. C'est aussi la période où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à être bouclimique, à lire beaucoup de livres, parce que je commençais à me comprendre et je sentais qu'il y avait une partie en moi qui était affamée. Voilà, mon âme et mon esprit étaient affamés, mon mental ego avait lu beaucoup de livres pendant 25 ans, mais Il y avait une partie de moi qui était affamée quand j'ai commencé à découvrir les livres de développement personnel. J'en parle beaucoup hein, dans mon livre « Incarner une spiritualité badass » de cette période. Si tu as envie d'en savoir plus sur comment j'ai traversé cette période, tu trouveras tout dans le livre. Donc oui, une fois pendant des mois et des mois et des livres et des livres, moi je commandais les livres par 6, 7, 8 dans ma boîte aux lettres. C'était un truc de ouf. Une fois que tu as laissé maturer tout ça en toi, que tu l'as bien digéré, ruminé, voilà, chercher le mot ruminé, et ben c'est le moment où tu as assez confiance en toi, assez de nouvelles croyances qui sont installées en toi pour, commencer à rayonner et à offrir au monde ta nouvelle fréquence. Voilà. On poursuit cette belle avancée de 35 à 42 ans. Donc, c'est pile poil la phase dans laquelle je suis, moi, en ce moment. Je sais pas toi où tu en es, mais moi, c'est ma phase. C'est on développe le chakra du troisième œil. Tu vois, là, on fait vraiment une belle remontée de la colonne de lumière. Là, on arrive au chakra du troisième œil qui représente l'occulte, qui représente ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas perceptible par nos deux yeux physiques, l'est par ce troisième œil qui voit au-delà de la matière, qui voit les énergies, les fréquences et les vibrations qui sont là, tout autour de nous. On est dans un énorme bocal de data, d'informations, mais qui ne sont pas perceptibles hein, par nos yeux physiques. Je te rappelle que nos yeux physiques, ils captent un tout petite lamelle toute fine du prisme de ce qui est. Vraiment, on voit que dalle. Hein. Je ne me rappelle plus, mais j'avais vu sur les plans de fréquence, je crois qu'on est entre les infraviolets, infrarouges, un truc comme ça, quoi. Mais c'est vraiment le prisme, il est tout petit. Tout petit. Donc, c'est un peu comme si nos yeux, ils voyaient la lumière spectrale de 7 couleurs et qu'en réalité, il y a des millions de couleurs, ok ? Et ben le troisième œil, il a la capacité de scanner beaucoup plus de couleurs. Donc, peut-être qu'on est sur des centaines de milliers de couleurs. Voilà, le troisième œil. Donc ça, c'est ma phase. C'est pas pour rien que le logo de mon podcast, c'est un œil. C'est l'œil de la conscience, l'œil du sacré, l'œil qui est dans notre cœur, en fait. L'œil qui voit la vérité, qui voit au-delà de l'illusion. C'est cet œil-là. On pose beaucoup de questions sur TikTok, notamment sur cet œil-là. On pense que je suis franc-maçonne ou je suis illuminée, mais non. Je suis juste connectée, j'essaye d'être connectée le plus souvent possible à ma conscience supérieure. D'ailleurs, c'est fou, mais vous verrez dans le e-book, avec le e-book que je suis en train de vous faire là en ce moment, en fait, vous avez capté que les archives akashiques, c'est finalement un plan de conscience supérieure. Ok, on poursuit, 35 à 42 ans. Alors ça, c'est le moment de la vie où t'es vraiment full dans ton potentiel physique, personnel, spirituel. Les choses sont normalement bien alignées hein, si t'as vraiment suivi ton chemin personnel, ton ikigai. Tu développes une attitude personnelle. Bah, moi, c'est la spiritualité badass, hein, cette attitude personnelle. Qui a déjà commencé à se développer hein, le cycle d'avant, mais là, elle est vraiment, vraiment en phase. C'est ton point d'éveil conscient. Tu es consciente, conscient de toutes tes capacités. Tu as fait la paix avec tes zones d'ombre. Tu as réalisé ton shadow work. Tu connais l'intégralité du prisme de qui tu es dans les bons moments, hein, quand tu es dans ta lumière, dans ton amour, dans ta paix intérieure, mais aussi dans les moments plus critiques. Tu sais comment tu es, comment tu te comportes, quand tu es stressée, quand tu es anxieuse, quand tu as peur, quand tu es en colère. Et c'est OK. Ça fait rire parce qu'il y a un gars qui a fait une vidéo de parodie des coachs et tout. Il répète tout le temps « Et c'est OK ». Et là, en le disant, je me suis dit « Waouh !» Donc, c'est aussi l'arc de ces 7 années-là, entre tes 35 et tes 42 ans, de purification de ta personnalité. C'est ce que je te disais, hein, t'es en paix avec toutes les versions de toi-même. Et t'es en pleine possession de tes moyens. T'as la force de construire tout ce que tu as envie. Ton pouvoir de manifestation, il est décuplé. Encore plus si t'as un féminin sacré qui a trouvé son masculin sacré et vice-versa. Moi, là, je suis dans ça. Hein. Je vous l'ai dit, hein, dans le canal Chouchou de Dieu sur Instagram. Là, je vais rentrer en phase de, pas de recherche, mais je vais manifester mon masculin sacré. Parce que je suis prête à décupler mes manifestations et même nos manifestations. J'ose espérer qu'on aura des manifestations en commun, lui et moi, et on va envoyer du très très lourd. vraiment vous n'êtes pas prêt. Et d'ailleurs, cette période-là, c'est souvent la période en 35 et 42 ans où bah il y a des divorces, on a envie d'une nouvelle vie, ou alors il y a de la tromperie dans les couples, on rentre dans du polyamour. Voilà, il y a des petits changements de paradigme qui s'opèrent notamment sur les plans intimes et de la vie sexuelle. Et d'ailleurs, pour ça qu'on appelle aussi cette période-là la crise de la quarantaine, bah parce qu'en fait, c'est le moment où il y a ce changement de paradigme entre ce que je vous avais dit tout à l'heure sur le côté croissant, quand la force vitale, elle monte, le côté croissant, force vitale qui monte, et le côté décroissant, la force vitale qui redescend. Hein. Donc voilà, ce momentum-là qu'on appelle la crise de la quarantaine. Moi, j'ai l'impression d'être en crise constamment, voilà, de me remettre en question, de vivre des changements de paradigme, d'évoluer en conscience, enfin tout ça, que du coup, je me rends pas vraiment compte de tout ça, quoi. On arrive sur le 7e chakra, le dernier chakra. Alors ça, on est entre les 42 et les 49 ans. Le chakra couronne, chakra coronal, ça représente la spiritualité. Ok, c'est la couleur mauve, mon pantone préféré. Donc là, vous voyez, on arrive sur ces derniers chakras. Donc on a fini une octave, hein, on a fini un cycle quand on arrive à 49 ans. Donc oui, comme je vous disais, donc à la fin du dernier cycle, c'est voilà, peut-être des tromperies, des trucs comme ça. C'est souvent aussi le cycle voilà, des ruptures. On a envie de changer ses habitudes, on a envie d'avoir de nouveaux départs dans la vie. Il y a une forme d'anxiété en général qui traverse les personnes... entre 42 et 48 ans. C'est con, hein, c'est une croyance limitante, mais c'est l'énergie de la dernière chance, en fait. Voilà, ce que je vais faire là, c'est la dernière fois que je le fais, ou si je me sépare, peut-être que je serai seule tout le reste de ma vie. Enfin, et y a beaucoup de gens qui ont cette anxiété de la fin des derniers jours où ils n'ont pas envie d'être seuls. Et en même temps, c'est hyper bizarre parce que c'est aussi la phase de puissance et du pouvoir. C'est le moment où on est à son climax, logiquement. Hein. Ça se sur un plan économique, personnel, familial. Enfin voilà, on a capté 2-3 trucs quand même dans cette incarnation. Donc logiquement, on est pas mal. Quoi. C'est la période où... on connaît la plénitude dans son couple, dans sa famille, au travail, son épanouissement personnel. C'est plutôt cool. Hein. Si vous avez des personnes de cet âge-là autour de vous, logiquement, si la vie les a pas roue arriérées, hein, s'ils se sont pas pris des grosses tréhas par la vie, qu'ils ont su rebondir, être soutenus, logiquement, on est pas mal hein, dans cet âge-là. Les notes que j'ai prises, j'avais oublié, mais il y avait deux débouchés, en fait, entre 42 et 49 ans. Il y a d'un côté, il va y avoir les personnes qui vont être avides de matérialité, plus d'argent, plus de confort, plus d'enfants, plus de maîtresses, plus d'amants, plus de déco, plus de voitures, plus de voyages. Il y a cette piste-là. Ou alors, il y a la seconde piste qui est, soit on a besoin de conquérir une nouvelle dimension, de nouvelles terres. Et cette nouvelle dimension, c'est celle de l'esprit, celle de la paix intérieure. Donc, on va avoir d'autres personnes qui vont s'intéresser. Il y a des personnes qui se mettent au yoga, à la méditation, dans leur quarantaine, comme ça, parce que c'est le bon moment pour eux. Les enfants ont grandi, il y a moins de charge mentale, peut-être qu'ils sont séparés, du coup, ils sont plus tranquilles. Et donc là, ça va être aussi peut-être le moment où on va traverser une nouvelle crise identitaire. On va se poser des questions voilà, existentielles, on va se questionner, quoi. Et, c'est intéressant de se dire, vous voyez, là, tous les cycles de 7 ans, donc c'est... Voilà, mais il y a des gens qui, du coup, d'une incarnation à l'autre, j'avais lu ça quelque part, bah, tu gagnes, tu vois, tu gagnes un cycle, tu vois, tu gagnes un cycle de 7 ans. Ça, c'est, on va dire, c'est ce que je vous déroule, c'est le truc mainstream. Mais si tu vois, tu vois que tu as fait un éveil de conscience dans ta vingtaine, dans ta trentaine, alors que là, on te le décrit dans la quarantaine, c'est peut-être que dans une autre vie, tu l'as fait, tu y es arrivé, tu as avancé sur cette connexion du nouveau terrain, nouvelle dimension, celle de l'esprit. Et du coup, tu es revenu dans cette incarnation déjà avec ces connaissances-là et cette sagesse-là. Du coup, tu vas pas repasser, tu reviens pas, tu redémarres pas cette trame-là de zéro. Il y a déjà dans ta mémoire cellulaire toutes ces connaissances-là qui ont juste eu besoin de rééclore à nouveau, d'être réactivées. On arrive ensuite sur une nouvelle octave entre tes 49 ans et tes 56 ans. On revient au chakra racine, mais avec une autre tonalité. cette fois-ci. Là, tu vas développer une autre capacité qui est celle du don, de la transmission, de rassembler. Il y a une nouvelle quête de sens, du coup, il y a une autre vision de la matérialité. Voilà, on a moins besoin de choses, on a déjà l'essentiel. Donc, on va transmettre et donner. Et donc, s'il y a des personnes qui ont 60, 70 ans, 80, voire plus, qui m'écoutent, déjà, je suis hyper contente. J'espère que vous m'entendez bien. En fait, ce qui va se passer, c'est que tous les 7 ans, on repasse par les mêmes cycles, famille, ego. Entre 63 et 70 ans, on revient sur le cycle de l'ego. Là, c'est la sagesse rayonnante ou la spiritualité. Tant qu'elle reste au cœur de ce repassage de ces cycles de 7 ans en 7 ans, en fait, elle permet un nouvel éclairage, un état d'apaisement. Et voilà quoi. Ensuite, on arrive progressivement vers la préparation de son grand départ et on refait le bilan de qu'est-ce qu'on a appris, où on en est, comment on se sent et tout ça et tout ça. Il y a tout un chapitre sur la mort aussi dans mon livre. Je vous en parle parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ces passages-là et je suis hyper contente que ça vous fasse du bien en fait. C'est des mots que j'aurais eu besoin d'entendre il y a quelques années et que j'ai compris au travers de mon expérience personnelle et de tout ce que j'ai pu recevoir comme enseignement. Il y a un passage dans le livre où je dis que et si finalement toute notre vie ne servait juste qu'à préparer les 10 minutes de notre grand passage vers la mort, et je le pense sincèrement. Donc voilà, placer la mort au centre de sa vie, je trouve ça plutôt sage en fait, parce que finalement la vibration qu'on aura au moment de partir, elle va définir la dimension où on partira. Donc ça, c'est hyper, hyper important de l'avoir en tête. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ces cycles des 7 ans. J'espère que ça vous a apporté des petites clés de compréhension. Moi, je sais que j'avais grave kiffé. Spiritualista. Si tu sens que tu as envie d'œuvrer parce qu'il y a une force plus grande que toi qui te pousse, si tu as l'impression qu'aujourd'hui tes ailes sont trop courtes pour voler là où tu as envie d'être, si tu as envie d'avancer mais que tu sens qu'il y a encore des élastiques qui te tirent à l'arrière dans le dos, si t'aimerais oser, si t'aimerais te lancer mais que tu sens qu'il y a encore des peurs qui te retiennent, si tu aimerais prendre ta place et t'exposer sur les réseaux sociaux pour partager ce qui t'anime et qui te passionne mais que tu as peur du jugement et du regard des autres, si tu sens dans ton cœur l'appel de ton âme vers de la joie et de l'expansion, mais que ta tête te joue des tours et sabote tous tes plans, c'est justement pour t'accompagner à aller au-delà de toutes ces fausses limitations que j'ai créé le Oraglo Project. Se créer une vie de joie, d'expansion, de réussite, de projet, de création, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Cet accompagnement personnalisé, je l'ai vraiment créé parce qu'au fur et à mesure des rendez-vous que j'avais avec les personnes au travers de Vibréo notamment ou de 22-11-22, et ben en fait, je ressentais qu'il y avait un besoin d'aller plus loin. C'est un peu comme s'il y avait un palier, un espèce de plafond de verre. On a beau lire des livres, on a beau regarder des vidéos de développement personnel, assister à des conférences, faire des retraites, et ben à un moment donné, on doit passer à la manifestation dans la matière. On doit passer à l'action. Et justement, le Oraglo, il est là pour ça, en fait. En l'espace d'un mois, on va vraiment créer un momentum pour te permettre de faire ce saut quantique, te permettre de te connecter à ta timeline de réussite, d'expansion, de réalisation. Tous les outils que je partage dans le Oraglo sont les outils qui, moi, m'ont permis de me révéler. Avant d'être la Amel qui parle dans un podcast, qui parle sur les réseaux sociaux, qui écrit un livre, j'étais moi-même dans ma grotte, en fait. J'osais pas, il n'y avait pas assez d'essence dans ma mécanique énergétique pour me permettre de monter sur scène et de prendre la lumière, d'oser être celle que je suis. Donc si mes mots, si mon approche vibre avec toi, tu trouveras toutes les informations sur le Oraglo Project sur mon site spiritualista.fr. Il y a très peu de place, j'accompagne seulement 5 glowy par mois. Avant de débuter l'accompagnement, on fait toujours un bilan énergétique, émotionnel et vibratoire pour savoir où tu en es. Ensuite, on commence à designer ta version du futur, ta version idéale, celle qui est connectée à la timeline de la réussite. Et au travers de ce mois d'accompagnement, on va poser les marches, les jalons pour connecter la version d'aujourd'hui avec le potentiel de celle que tu vas devenir. Que tu es déjà, hein, la graine elle est là, elle est en toi. On va simplement profiter de cette période printanière pour faire germer cette graine et accueillir les belles fleurs et les beaux fruits. Donc voilà, si tu as envie qu'on collabore ensemble au sein du Oraglo, n'hésite pas. Et autre chose que j'avais envie de partager avec toi dans cet épisode, ce 78e épisode de ton podcast Initiatique Spiritualista, c'était la nouvelle façon que j'ai de prier. C'est une prière en trois parties le soir. Je l'ai partagé dans un live sur TikTok il y a quelques jours, mais je m'étais dit que ce serait bien que je le pose aussi dans un épisode du podcast. Alors, je prie en trois parties. C'est un triptyque de prière. La première partie de ma prière, c'est celle dans laquelle je repousse les ténèbres et toutes les nuisances, tout ce qui n'a rien à faire là, dans mon aura. C'est hyper important. De mon point de vue, de démarrer une prière en repoussant le malin, le diable, les énergies limitantes, entravantes, même les émotions de basse fréquence, toutes les projections qui ne vibrent pas au minimum la paix et l'amour, surtout quand on s'exprime publiquement sur les réseaux sociaux, au travers d'un podcast, dans un livre, dans des choses comme ça, beaucoup de personnes ont accès à notre énergie, mine de rien. Et donc, je démarre mes prières en repoussant. Donc, je repousse les forces des ténèbres. Je demande à mon autorité divine de repousser les ténèbres. J'ai pas vraiment de prière toute faite parce que ça change avec le mood du jour, les mots que j'ai envie d'utiliser, ma vibration. Et c'est important que votre prière vous appartienne, qu'elle soit teintée de votre empreinte énergétique. Donc moi, je vous donne juste les grandes lignes des trois parties, mais c'est à vous vraiment d'affirmer les choses et de vous autoriser à parler comme vous en avez envie. Ok. Deuxième partie, je remercie, c'est une prière de gratitude. Je remercie pour toute la magie que j'ai réceptionnée dans cette journée, toutes les belles choses que j'ai reçues, tout ce que j'ai pu manifester, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai reçu, toutes les synchronicités, prière de gratitude. Deuxième partie, prière de gratitude. Et troisième partie, prière de verbalisation de ce que j'aimerais voir manifester, ce que j'aimerais magnétiser, ce que j'aimerais créer, ce que j'aimerais apporter, ce que j'aimerais diffuser. Comment j'aimerais œuvrer, servir dans ce monde. Voilà. Donc, c'est une prière en trois parties. Donc, c'est vraiment t'as vu, c'est simple, c'est minimaliste, mais moi, j'adore, je trouve que c'est hyper complet. Première partie, je repousse les ténèbres. Deuxième partie, prière de gratitude. Merci pour tout ce que j'ai reçu. Et troisième partie, comment je peux œuvrer plus? Qu'est-ce que j'aimerais voir manifester? Qu'est-ce que j'aimerais accueillir? Qu'est-ce que j'aimerais amplifier? Avec quel ange j'aimerais collaborer? L'ange de l'amour, de la vertu, de la vérité, de l'abondance. Voilà. Ben voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire, sur tout ce que je pouvais partager avec toi. Les grands rappels, mon livre est sorti, Incarner une spiritualité badass. Si tu l'as chopé sur Internet, je serais super contente si tu laisses un commentaire sur les différents sites de commande, le Oraglo Project qui est disponible. Tu auras toutes les informations sur mon site spiritualista.fr. Tu vas voir, toi et moi, on va faire de belles choses. Je vais partager avec toi toutes les clés, tout ce qui m'a permis de rayonner, tout ce qui va te permettre toi aussi de rayonner depuis un espace de paix, de joie, de générosité et de kiff, parce qu'on est clairement ici pour kiffer avant tout. Faut pas l'oublier. Il y a l'expérience holistique, la retraite à Bali, Eat, Pray, Love, qu'on organise avec Olfa du 12 au 19 octobre prochain. Il reste quelques places, il en reste pas beaucoup, je crois qu'il en reste deux. Il reste deux places pour cette retraite-là. Donc si t'es intéressé, si tu veux nous rejoindre une semaine pour vivre une expérience holistique, spirituelle, transformative, extraordinaire à Bali, à Ubud, dans la ville médecine de Ubud, tu trouveras le lien en barre d'infos. Je serai aussi à Marrakech en mai et en juin. J'y étais l'année dernière et j'ai adoré ce moment. Je vais faire des conférences et des ateliers. C'est la retraite cœur organisée par Olfa. Il y a deux dates pour cette retraite à Marrakech. C'est du 22 au 27 mai et du 5 au 10 juin. Voilà, vous avez deux possibilités. Olfa, c'est la meilleure orchestratrice de retraite et d'expérience que je connaisse. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai organisé ma première retraite à Bali avec elle. Et ce qui se passe à Marrakech, c'est magique, magique, magique. Là aussi, si tu sens que ton cœur est appelé pour vivre cette retraite à Marrakech, je te mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que là, on a fait le tour de tout ce que j'avais envie de partager avec toi. Le livre, c'est fait. Les retraites à Marrakech, c'est fait. La retraite à Bali, c'est fait. Je te souhaite d'accueillir ces belles énergies printanières comme il se doit. Vraiment, ça va être magnifique. Et au moment où je te dis ça, il y a un rayon de soleil qui fait une percée. Waouh! Allez, je t'embrasse bien fort et je te dis à très très vite, ici ou ailleurs. Mouah! Spiritualista. Let me go.